Vous avez vu 100 fois Isambard. C'est un homme petit, trapu, au teint frais et rosé, au nez rouge, aux yeux gris. C'est lui qui, dans toutes les troupes d'acrobates, vous a fait rire si vous êtes enfant, et pitié si vous êtes plus grand. C'est lui qui, avec ses bas rouges, sa culotte courte, ses souliers à larges boucles d'argent, son chapeau à l'hidalgo, gris, ras et orné d'une plume de coq, c'est lui, dis-je, qui reçoit toujours la craie au milieu du visage en en frappant la corde. C'est lui qui tombe par terre, reçoit les claques. C'est lui qui, allumant les quinquets, se laisse dégringoler du haut de l'échelle. Puis il prend un air grave et Saint-Jean le régisseur. Il s'avance, le chapeau sous le bras, annoncer le programme. Marguerite, vous la connaissez aussi. C'est elle qui reçoit les 3 sous que chaque spectateur doit donner en sortant. Elle a les sabots aux pieds, des bas blancs bien tirés sur le mollet et un mouchoir d'indienne sur la tête en forme de béret. Vous avez vu Pedrillo, c'est cet homme grand, mince, marqué de petites véroles, qui saute sur la corde d'un pas léger et qui bondit et qui saute sans balancier. Depuis 2 ans, nos 2 troupes vivaient en bonne intelligence et la famille de Pedrillo ne s'était pas repentie de son association. Tous vivaient heureux, tranquilles, sans soucis, mangeant le soir ce qu'ils avaient gagné tout le jour. Marguerite seule était malheureuse. Et pourtant, son mari ne la battait plus. Ses enfants avaient du pain. Ah, c'est que Isabelle Lada était jeune, jolie. Elle avait 20 ans. Ses dents étaient blanches, ses yeux beaux, ses cheveux noirs, sa taille fine, son pied mignon. Et Marguerite était laide, elle avait 40 ans. Les yeux gris, les cheveux rouges, la taille grosse, le pied large. L'une était la femme et l'autre l'amante. L'une était celle qui donnait toujours des reproches et l'autre de si ardents baisers. Isabelle Lada était devenue mère et elle avait un enfant aussi beau qu'elle. C'était le second amour de Pedrillo. Isambard avait regardé tout cela d'un œil de philosophe et s'était contenté de faire là-dessus une mauvaise pointe en disant que l'on n'aurait plus besoin d'aller chercher de l'eau pour faire la soupe puisqu'on avait 2 mères sous la tente. Il le répétait à tout venant et disait ensuite « N'est-ce pas que je suis farceur ?» Et il en avait pour une demi-heure à rire. Ce qui humiliait davantage Marguerite, c'était cette comparaison perpétuelle de tous les jours, de tous les instants, qu'elle avait à soutenir avec Isabelle Lada. Ce mépris qui s'attachait à sa personne, à tout ce qu'elle faisait, mais ce qui lui faisait le plus de mal, c'était lorsqu'elle entendait le soir les baisers des 2 amants heureux, lorsqu'elle les voyait s'entrelacer de leurs bras sans crainte, sans pudeur, mais avec amour. Et puis l'enfant de Pedrillo, elle le haïssait d'une jalousie sombre et amère. Un jour, c'était dans l'été, toute la troupe, à l'exception des enfants, dansait dans le carrefour d'une rue assez déserte. Marguerite et Isabelle Lada descendaient aussi. Pauvre Marguerite. Pedrillo, un bonnet chinois sur la tête, des timbales aux genoux, une flûte de pan à la bouche, frappant de la grosse caisse, composait tout l'orchestre. Isabelle Lada, en robe blanche, une écharpe rose autour du cou, sautait, dansait, tourbillonnait sur le vieux tapis de Perse. Son regard était vif et lançait des éclairs. Sa taille était fine, svelte, et se pliait et s'abaissait et se dressait comme le cou d'un cygne. Oh non, ce n'était point une robe. C'était un léger jupon blanc avec des fleurs brodées au bas, un léger jupon tombant au milieu des cuisses sur des bas roses qui les serraient avec volupté. C'était sa valse, sa danse, tourbillonnante comme 2 pensées d'amour qui bondissent dans le cœur d'un poète. Et sa gorge si blanche, blanche comme du marbre le plus blanc, sa gorge si pure, si fraîche, si suave, et sa tête, et ses yeux, et son sourire. Oh, la gorge d'une femme quand elle est jeune et jolie, quand on la sent comme une rose à travers la mousseline sautillante au mouvement de sa danse. Oh, la gorge d'une femme, n'est-ce pas que c'est là, dans vos rêves d'amour, dans vos nuits d'insomnie, dans ces nuits que l'on passe à pleurer et à maudire sa mère? N'est-ce pas que c'est sur sa gorge que vous avez posé votre tête toute chaude et toute bouillante? C'est sur sa gorge que vous avez tressailli d'amour, que toutes les fibres de votre âme ont vibré comme la lyre touchée par le doigt d'une jeune fille et se sont raidies de volupté comme les muscles d'un athlète? N'est-ce pas entre ces deux seins que vous avez dévoré le si ardent baiser? N'est-ce pas dans son regard si doux que vous avez bu la vie? N'est-ce pas dans ses sourires que vous avez vécu? N'est-ce pas que son pied mignon, sa jambe si bien faite, était là sur votre lit à s'entrelacer dans les vôtres? Et puis sa figure, sur cette gorge, sur cette taille de femme, sur tout cet ensemble de gracieux, de céleste, de divin, il y avait dans son regard, dans le mouvement de sa prunelle, dans le bruit que sa robe faisait en tournant dans l'air, dans la manière dont son pied pivotait sur le tapis troué, quelque chose d'inexprimable et d'inouï, de rêveur et de pur. Elle n'avait pas l'air d'une femme, ainsi sautant, tourbillonnant, dansant. Oh non, ce n'était pas une femme, c'était une pensée d'amour. À la voir ainsi, au milieu de cette musique aigre et bizarre, entre Isambard et Marguerite, c'était un diamant sur un tas de boue. Isambard faisait encore l'insipide paillasse, il avait un juste au corps, des bas bleus et blancs, et une perruque moitié rouge, moitié noire. Sous ce costume grotesque, il disait mille choses plaisantes, ennuyeuses. Et Marguerite, que faisait-elle? Elle souffrait, elle pleurait en silence. Oui, mais pour vous ce n'est rien, souffrir, pleurer, je comprends. Eh bien, chaque spectateur qui venait regarder avec extase la sylphide jetait les yeux sur l'autre femme qui était là à quelques pas. Et que faisait-elle? Des tours de force. Oui, à côté de cette jeune fille, si belle, si fraîche, se trouvait là comme contrepoids une femme rouge aux joues épaisses, aux pieds mal faits, à la tenue déhanchée. Elle s'avançait aussi au son de la même musique, et ses pieds touchaient le même tapis que ceux d'Isabelle Lada. Oui, cette femme qui sautait si légèrement, qui vous inondait les éclairs de sa brillante prunelle, qui faisait tressaillir votre corps d'un long frisson d'amour quand sa robe en passant effleurait vos cuisses. C'était une baladine, comme Marguerite. Elle était au même degré que cette masse de chair qui se contournait avec force, qui marchait la tête renversée au même niveau que les pieds, ne laissant apercevoir sous sa longue robe bleue qu'un ventre à la place d'une tête et que des seins qui tombaient avec dégoût et pesanteur. Puis, lorsqu'elle se relevait, son visage était couleur de pourpre, ses yeux tout violets et pleins de sang, et ses veines gonflées. Et sur tout cet ensemble grotesque, il y avait pourtant répandu un certain air de courtisane, de flatterie. Sa bouche sans dents voulait sourire, elle faisait une grimace. Son regard ennuie et pèse, mais elle déplaît souverainement lorsqu'elle dit d'une voix aigre, d'un ton de pigrièche: « Et regardez bien, messieurs, comme ceci est difficile !» Et la musique continuait. Isabelle Lada dansait, sautait, tourbillonnait, comme des pensées d'amour dans le cœur d'un poète. De temps en temps, quelque chose se faisait entendre dans un plat qui était sur le tapis. « Yagra !» dit Isambard, en défaisant sa perruque. Vous ne savez peut-être pas ce que sont les quatre masques qui s'avancent crochés tous ensemble dans la rue du théâtre. Il y a un Pierrot avec une tête de bœuf, C'est un homme petit, large, de bonne humeur et qui promène sans donner une bosse, c'est son expression. À sa gauche est un domino noir qui marche la tête baissée. Ce domino a l'air d'une femme. Puis c'est un diavolo assez bien fait qui parle tout bas à une jolie Suissesse au cotillon court et qui porte fièrement une tête sans masque. Singulière chose qu'un bal masqué. Ne croyez pas que je vous parle de ceux de l'opéra qui naissent au mois de janvier et meurent le mardi gras, des bals de l'opéra où l'on s'ennuie, où je n'ai jamais été, parce que là encore, vous voyez sur le masque la lunette d'or du banquier et sous la patte du singe le gant parfumé d'un dandy. Non, mais c'était un bal du peuple où il va seul, les manches retroussées, où pour 20 sous il rit toute une nuit dans sa bonne grosse joie. Un bal où l'on s'intrigue plus qu'aux autres, où il est de mauvais goût de se fâcher et que les directeurs, bravant les préjugés des salons, livrent au public si le dimanche est beau et si le pain n'est pas cher. C'est à ces bals-là qu'il y a des danses impudiques qui vous feraient rougir, pauvre fille. Et si vous y alliez le lendemain, vous ne seriez plus vierge, peut-être. Et l'on s'y amuse, pourtant l'on est heureux, les hommes sans pudeur, les femmes souillées, sans honneur. On est heureux, sans vertu. Singulier, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes pas douté qu'on pût être heureux sans vertu? C'est vrai, pourtant. En ce cas, à quoi servent-elles? Vous avez reconnu ces masques, ce sont nos saltimbanques. Jadis, ils n'avaient pas de pain, aujourd'hui, ils courent au théâtre. C'est qu'ils ont de l'argent, oui, de l'argent. D'où leur vient-il? D'Isabelle Lada. Ne croyez point que ce soit aux animaux d'Isambard et à ces grimaces autour de Fort de Marguerite qu'ils doivent leur fortune du tout. C'est à cette belle enfant qui saute maintenant une valse hongroise au milieu du bal, éperdue, enivrée, accablée d'applaudissements, de fleurs et du brouhaha, d'une salle entière qui trépigne de joie. Un seul masque reste pensif sur sa banquette. Il est triste et les applaudissements de la salle le font pleurer. La grâce d'Isabelle Lada lui est en charge. C'est qu'aussi là, comme autre part, il est venu apporter sous son masque sa jalousie amère et sa haine furieuse et ses peines et ses plaies saignantes et ses blessures profondes. C'est le domino noir. Quant à Isabar, il dansait lourdement, criait fort, intriguait le premier venu, et puis il allait s'asseoir à la table de jeu avec d'autres pierrots, trichait, riait aux éclats, faisait du vacarme, attroupait tout le monde autour de lui, et puis il recommençait. Marguerite, depuis quelque temps, l'avait perdu de vue lorsqu'elle se sentit frappée sur l'épaule. Elle se retourna. C'était un pierrot avec une tête de bœuf. Elle reconnut notre homme. Mais lorsque celui-ci vint à lui dire « Je te connais bien, beau masque !» Ce n'était plus sa voix, non, bien sûr, ce n'était pas lui. Qu'en savait-elle après tout? Car il y en avait tant d'autres du même costume, et cette mode de porter des têtes d'animaux était alors fort en usage. Quant à la voix, elle était déguisée sous le masque. « Je te connais bien, dit le pierrot, veux-tu que je te dise ton nom ?»« Oui. »« Marguerite, la rouge laide. » Cette voix grêle et chevrotante, cette figure stupide de bœuf ouvrant ses larges narines avec ce rire imbécile, fit peur à Marguerite. Elle se tapit dans son coin en tremblant. « Tiens, regarde, continua-t-il, cette jeune fille sautée là-bas, la reconnais-tu ?» Et il montrait Isabelle Lada et sa large figure riait toujours et sa voix continuait. « Elle est plus jolie que toi. Vois-tu comme son sein palpite avec grâce, comme ses mains sont blanches, comme son costume lui dessine bien la taille. » Marguerite trépignait d'impatience, elle se mordait les lèvres et commença à pleurer, et l'on vit ses larmes couler sur son masque noir et y laisser une trace blanche. Et la tête de bœuf riait toujours, ouvrant ses larges narines, et ses lèvres s'écartaient avec une stupidité qui avait quelque chose de féroce. Il continua avec plus de vitesse. « Ce soir après le bal, quand les lumières seront éteintes, lorsque tu retourneras dans ta tente, joindre tes enfants, tu entendras non loin de toi le bruit des baisers d'amour. Oh, grâce, grâce !» Et le masque riait le plus belle. Il se mit même à agiter ses longues manches autour de la tête de Marguerite et en lui caressait les joues. « Et cette femme que tout le monde admire maintenant sera un seul homme, à ton mari. Ah, pitié, Isambard, pitié !» Tenez, dit-il en riant et en s'adressant au public, en voilà une qui se fâche parce que je lui dis que son mari en caresse une autre. Il se retourna vers Marguerite, l'amena dans l'embrasure d'une fenêtre. Alors elle ne pouvait plus lui échapper. Il pouvait lui cracher toutes ses injures à la face. Il pouvait lui raconter jusqu'au bout toutes les peines qu'elle avait eues, lui dire combien elle était laide, lui montrer toute la différence qu'il y avait entre elle et la danseuse, lui peindre jusqu'au dernier détail l'amour de Pedrillo. Il pouvait lui représenter avec chaleur leurs entrelacements dans le lit nuptial, leurs mots à moitié dits, leurs soupirs entrecoupés. Et c'est ce qu'il fit. Ah, « Tu seras éveillé demain par les éclats de rire d'un enfant, ce sera le leur. » « Oh, Isambard, mais que t'ai-je fait ? Rien, mais tu me déplais. Tantôt, quand je te voyais faire tes tours, que j'aurais eu le plaisir à jeter de la boue sur ta robe bleue, à tirer tes cheveux, à meurtrir tes seins. Je sais bien, tu ne m'as jamais rien fait, tu es peut-être meilleur qu'une autre, mais enfin, tu me déplais. Je te souhaite du mal. C'est un caprice. » D'abord, pourquoi pleurer toujours, avoir un air si sombre, une démarche si déplaisante, une tournure qui me fait bisquer, enfin. Et puis, toujours geindre et se lamenter. Eh bien, morbleu, pourquoi ne t'en vas-tu pas avec nous, car nous te nourrissons, et ce n'est jamais pour toi que nous recevons de l'argent. Tes enfants, dis-tu, eh bien, le bureau les ramassera bien, moi à ta place. Je ferai la vie, au moins. Oh non, t'es trop laide. Oh, mais quand je vois tes yeux de chat à travers ton masque, ce qu'est figure qui me déplaît. » Et il quitta son air en colère et partit en riant aux éclats. Isabelle Lada, épuisée, demanda à Pedrillo à s'en aller, et en quittant le bal, elle s'appuya sur son bras langoureusement, laissa voir sa gorge décolletée, et son dos couvert d'une sueur odoriférante. On l'applaudit encore. Pedrillo, en effet, laissa seule Marguerite et alla du côté de la ménagerie. Isambard le laissa tranquille, se coucha vite et ne se réveilla que le lendemain à 1 heure d'après-midi. Le domino noir ôta son masque qu'il étouffait et resta le coude appuyé sur la table, regardant brûler la chandelle et enfoncé dans ses souvenirs du bal. Les paroles d'Isambard lui revenaient à l'esprit. Elle entendait ce rire éclatant, perçant à travers son masque. C'était le souvenir de la danse d'Isabelle Lada qui lui faisait mal, tous ses applaudissements pour une autre, tous ses dédains pour elle, l'amour de Pedrillo pour son enfant. Et la tête de bœuf lui revenait encore dans l'esprit, avec ses narines ouvertes et son rire féroce. Son expression stupide l'effrayait encore. Je ne sais si vous avez, comme moi, étudié tous ces visages grotesques, mais il y en a quelques-uns dont l'auteur doit être bien athée et bien misanthrope pour réunir sur le même carton la ressemblance de la brute avec l'homme. La haine sans cause, dit Zambard, lui avait fait une singulière impression. Sa haine avait pour motif qu'elle marchait mal, que ses cheveux étaient rouges et qu'elle aimait ses enfants. Ce remède ignoble à ces maux qu'il lui avait proposés, cette insulte outrageante de lui avoir fait sentir qu'on la nourrissait par pitié, qu'elle leur était à charge, ah, tout cela la faisait souffrir, elle qui aimait tant son Pedrillo, elle qui n'avait demandé au ciel qu'une vie d'amour, qu'un mari qui l'aimât, qui comprit toutes ses tendres affections et qui sentit toute la poésie qu'il y avait dans ce cœur de baladine, de femme honnie, méprisée de la société. Ah, se disait-elle en elle-même, lorsqu'elle voyait passer en chapeau une femme honnête, pourquoi ne suis-je point comme elle? Et alors l'envie lui prenait au cœur. Quand elle voyait danser Isabelle Lada, elle demandait au ciel pourquoi la nature ne l'avait point faite ainsi, et elle haïssait la maîtresse de son mari. Oh, dans ces moments-là, quand elle avait froid, quand elle voyait Pedrillo vivre heureux et content, alors elle était méchante et ne croyait plus en Dieu. Encore, elle se serait passée d'argent, mais elle demande de l'amour à la société, on lui rit à la face, de l'humanité, on lui montre le chemin de l'hôpital, de la pitié, c'est une baladine. Oh, de la pitié à une baladine, à une voleuse d'enfants, à une coureuse des rues. Eh bien, à cette société qu'il avait voulu lui donner ni pain, ni amour, ni pitié, elle voua la haine et la jalousie. À Dieu qu'elle avait imploré tant de fois, les genoux sur le pavé, les larmes aux yeux, à Dieu qui n'écouta pas ses prières, elle donna l'impiété. À la nature qu'il avait maltraitée, le mépris. Aussi, quand elle voyait des gens riches, heureux, estimés, dont on prenait soin, elle leur souhaitait les calamités les plus grandes. Elle riait des prières des pauvres, de leurs vœux, de leurs reliques, et en passant, elle crachait sur le seuil des églises. Quand elle voyait une femme gracieuse, au doux sourire, aux yeux tendres et langoureux, aux cheveux de jais, au cou d'albâtre, elle se moquait de la foule qui l'admirait. Elle se disait: mais qu'aurait-il fallu pour qu'elle fût comme moi? Des cheveux d'une autre couleur, des yeux plus petits, une taille moins bien faite, et elle serait comme Marguerite. Si son mari ne l'avait point aimée, l'avait méprisée, l'avait battue, elle serait laide, méprisée comme Marguerite. C'est dans ces pensées-là qu'elle était alors, puis peu à peu, elle s'assoupit. Elle dormait le coude appuyé sur la table, la joue dans la main, et la chandelle brûlait toujours. Le lendemain, elle fut réveillée par la voix d'Ernesto qui se disputait avec Isabelle Lada. Elle se mit à les écouter. « Mais pourquoi ne l'avez-vous pris? N'était-ce pas à moi? Je veux la revoir !» Marguerite s'habilla à la hâte, se cacha derrière la voiture aux animaux et les regarda sans rien dire. Elle vit la sœur d'Isambard qui tenait la couverture d'un de ses enfants et qui ne voulait pas lui rendre. Elle avait déjà bien d'autres motifs pour haïr cette femme, sans que celui-ci vînt s'y joindre encore. Elle ne put supporter plus longtemps cette vue. Elle sauta en un seul bond sur elle et lui arracha la couchette. « Encore, mais toujours toi, Isabelle Lada !» Elle prononça ce mot de la manière la plus dure qui lui était possible, car son harmonie lui déplaisait. « N'est-ce point assez, continua-t-elle avec verve et chaleur, n'est-ce point assez que tu viennes chez nous t'y établir y dominer, y faire la souveraine. Que tu prennes mon mari, que tu me l'enlèves tous les jours de ma couche pour le porter dans la tienne. N'est-ce pas assez, fille de Satan, de nous insulter en public par ta beauté que tu prostitues à l'admiration du premier venu? Dis, réponds, n'est-ce pas assez? L'infamie et l'outrage ne sont-ils pas portés assez haut sans que tu viennes encore arracher les linges qui cachent le sang de nos plaies? Il retomberait sur toi, le sang. Prends-y garde. Les belles filles, les jolies, à qui tout le monde jette des fleurs, des louanges, de l'argent, vous vous donnez en échange le mépris, la honte et la misère. Tiens, Pedrillo, regarde si je n'ai pas raison. Qu'y a-t-il, Isabelle Lada? Ben, son enfant a voulu prendre la couverture du mien et Marguerite soutient que c'est à elle. Marguerite, qu'as-tu à dire? Elle ment, Pedrillo, ne l'écoute pas. Mais c'est toi, Marguerite, et il la repoussa durement dans la tente. Là, elle s'arracha les cheveux, déchira ses habits, se roula par terre, se mit le visage en sang. Elle se releva. Il faut donc boire l'amertume jusqu'à la lie. Eh bien, oui, encore, encore. Isabelle Lada danse mieux, s'il est possible. Pedrillo aime la plus encore, et moi, je vous haïrai davantage. Tout à coup, elle se jeta aux genoux de Pedrillo qui entrait dans la tente au même moment. Que viens-tu faire ici? Prendre de l'argent? Pour qui? Ben pour elle? Ah oui, elle, toujours! Ah, Pedrillo, tu l'aimes donc bien? Oui. Grâce, oh, ne m'accable plus de sa présence, de son nom, de sa beauté. Je t'en prie, aime-moi. Que te faut-il pour te plaire? Mais je t'en prie, ne me parle plus. Cette femme, le visage ensanglanté, les habits déchirés, pleurant, se tordant de rage à ses pieds, l'attendrit un moment. « Que veux-tu, ma Marguerite ?»« Pedrillo, laisse pour maintenant, mais un jour, quand elle, tu m'entends, elle, quand elle m'aurait tué par ses insultes, tu sais comme le lion du midi rugit bien dans sa cage, tu sais avec quelle volupté il dévore la viande qu'on lui donne le soir. Bien un jour, je te demanderai le même honneur. » Mais qu'as-tu? Voyons, Marguerite, reviens à toi. Ce que j'ai, mais je suis jalouse. Ah, tu ne l'as jamais été, toi. Mais ce que j'ai, je suis folle, peut-être, je n'en sais rien. Mais je la hais, et je t'aime. Il fait chaud. Le soleil darde ses rayons sur la route, pleine de poussière. Et les pommiers qui l'abordent ont leurs feuilles toutes brûlées. C'est par ces vigoureuses chaleurs du mois de juin qu'il est doux de se laisser balloter par le mouvement de la calèche, de s'abandonner à quelques rêves pleins de poésie, tandis que les rideaux bleus des vasistas sont fermés et laissent passer cependant quelques petits nuages de poussière chassés par le vent et qui vient couvrir vos habits. Cela est vrai, mais tout le monde ne voyage pas en calèche, et nos baladins dormaient alors dans leur carriole. Marguerite et Pedrillo marchent à pied et causent tous deux. Le silence n'était alors interrompu que par le son de leur voix qui se faisait seul entendre au milieu de la campagne, par le pas des chevaux sur la poussière et par le bourdonnement d'une abeille qui bourdonnait autour de la cage du lion et l'empêchait de se livrer à ses rêves. Car il en avait peut-être, lui aussi. Il pensait à son soleil d'Afrique, à sa tanière qui avait laissé bien loin là-bas, dans d'autres pays. Il pensait à son vaste désert, à la lionne qui couchait avec lui sous l'ombre du palmier, et il mordait le bout de ses griffes avec mélancolie. Laissons-le penser à son bonheur d'autrefois, laissons-le rêver à ses joies brutales et revenons aux peines de Marguerite. « Tu l'aimes donc bien ?» dit-elle tout à coup. « Eh bien oui, Marguerite, pourquoi toujours le demander ?»« Mais que lui trouves-tu de bien ?»« Tout ? Mais tu m'ennuies, que veux-tu ?»«
La mort. Oh, tu es folle !»«
Peut-être. Tu es méchant, je ne te demande pas l'amour. Je ne te demande pas la pitié, mais je te demande la cause de cet amour. » Puis la mort après.
Oh, quant à la cause, je n'en sais rien, dit Pellerio d'un ton courroucé.
Quant à la mort, je t'en prie, Marguerite, tu sais que l'homme a des accès de colère.
Et la femme des accès de jalousie, répondit Marguerite en riant ironiquement.
Oui, de jalousie, c'est-à-dire de haine. Je te demandais la cause de ton amour pour Isabelle Lana, et bien moi, je vais te dire la cause de ma haine pour elle et pour toi.
Marguerite, prends garde.
Non. La voilà la cause, elle est belle. Je hais les belles parce que je suis laide.
Tu l'aimes et je la hais, je hais ceux qu'on aime. Tu es heureux, toi, je hais les heureux. Vous êtes riche et je hais les riches parce qu'on ne m'aime pas, parce que je suis malheureuse et misérable.
Pourquoi, hein, Pedrillo ? Pourquoi m'as-tu rejeté toujours, comme quelque chose dont on a honte ?
Ah oui, parce que tu craignais la risée publique.
Eh bien, je te hais, parce que j'aime ce que la société méprise. J'aime les baladins, moi, j'aime les filles de joie, et celles du dernier rang, et je déteste ton Isabellada. Oh, si je pouvais, je l'écraserais sous mon pied, avec quelle joie! Je piétinerais sur son corps, sur ses seins, sur sa tête, sur sa figure. Je la mangerais, je la dévorerais avec plaisir.
Pedrillo fit un geste de colère. Marguerite, prends garde, le lion est là dans sa cage.
De grâce, finir, et pas un mot.
Il fallait que tu fusses un homme sans pudeur et sans âme pour me mépriser ainsi, pour bafouer, pour salir, pour traîner dans la boue cette pauvre Marguerite qui t'aimait tant, qui s'était jetée dans tes bras pleine de poésie et d'amour, et que tu as repoussée du pied comme un chien galeux qui veut lécher son maître.
Oh, Marguerite, Marguerite, tu vas me faire faire quelque chose d'odieux, d'horrible.
Encore, cette femme, elle avait des enfants, et leur père les traitait sans pitié, pas de pain, quelquefois.
Et s'ils ne sont pas morts, c'est que Dieu a veillé sur eux. Les sangliers, la bête féroce, dévorent quelquefois ses enfants, mais s'il ne les fait pas périr dans les agonies de la faim.
Eh bien oui, va, jette-moi, si tu veux, à ce lion, je ne demanderai rien, ni secours, ni pardon.
Non, car si tu m'as abreuvé d'amertume, je t'empoisonnerai d'injures, d'insultes et de reproches.
Écoute, écoute, j'en ai encore à dire. Écoute que je te dise encore une fois que je hais Isabelle Lana. Oui, je la déteste. Je voudrais l'avoir entre mes mains, l'écraser, la déchirer de mes ongles et plonger ma tête dans son sang et m'y désaltérer en la replongeant encore.
Le lion rugit dans sa cage, il fait sonner sa queue, il remue sa crinière, et la gueule ouverte, il attend une femme que Pellerio a dans ses bras. Celui-ci ouvre la porte et la précipite. Déjà, le fier animal l'avait saisi, lorsqu'Isambard, survenu à ses rugissements, arracha Marguerite. Elle avait la poitrine déchirée et ses mains portaient l'empreinte de ses griffes.
Quelle est cette femme qui sort en chancelant de l'hôpital? Sa taille est grosse, ses cheveux rouges, son regard stupide, un bonnet de dentelle avec des fleurs sales lui couvre la tête, ses habits sont déchirés et son aspect est misérable et fait pitié. C'est une folle.
Vous voyez bien
que son rire est étrange, ses mots entrecoupés, qu'elle court, qu'elle s'arrête. Bien sûr, c'est une folle. Ses mains et son visage ont des balafres. Bien sûr, c'est Marguerite, oui, c'était elle. Elle marcha ainsi pendant 2 jours, ne sachant où elle allait, sans avoir rien pris ni rien ramassé, rien que la boue qu'on lui jetait en passant. Les gamins couraient après elle, et lorsqu'elle se détournait pour leur dire « Il fallait que vous soyez sans pudeur et sans âme », sa figure grimaçant, son costume et ses fleurs sur le bonnet déchiré les faisaient rire, et ils l'accablaient de leurs huées et de leurs cris de dédain. Fatiguée, harassée, n'en pouvant plus, elle tomba presque évanouie sur le gazon d'un boulevard. Tout à coup, elle releva la tête, promena ses regards hébétés autour d'elle, et s'écria d'une voix tonnante « Oh, mes enfants, où sont-ils? Auguste, Ernesto, Garofa !» Un tilbury vint à passer. Une grande dame s'y charriait à son aise. Son cachemire blanc tombait derrière jusque sur le siège du domestique. Les plumes blanches et noires de son chapeau s'agitaient avec grâce dans l'air. Son sourire était doux, sa taille fine. Elle paraissait heureuse, elle avait des diamants, un équipage, des cachemires et des colliers d'or. Marguerite courut vers elle, s'accrocha au rayon de la voiture et avec des trépignements de colère. « N'est-ce pas assez d'infamie et d'injures sans venir arracher le linge qui couvrait nos plaies ? C'est toi, Isabelle Lada ? Oh, ah, je te reconnais bien. C'est toujours cet air de courtisane, cette taille impudique. » Elle ne se trompait pas. Un jour qu'Isabelle Lada dansait sur la place, un grand seigneur la vit, et depuis ce jour, elle devint sa dame de compagnie. « Quelle est cette femme ?» dit le monsieur qui était dans Tilbury. « Oh, je le sais, une folle sans doute. Si je suis folle, peut-être. John, chassez-la. » Le domestique lui donna des coups de fouet sur le visage, mais elle restait toujours accrochée au rayon de la roue. « Non, je m'en irai pas, » disait-elle. « Écoute, écoute encore. Si tu m'as abreuvé d'amertume, je peux t'empoisonner d'insultes, de reproches et d'outrages. » « La folle, la folle !» criait le peuple en courant après Marguerite. Elle s'arrêta, se frappa le front. « Oh, la mort !» dit-elle en riant, et elle se dirigea à grands pas vers la Seine. On venait de retirer un cadavre de l'eau, il était exposé à la morgue. C'était une femme, un bonnet de dentelle avec des fleurs sales lui couvrait la tête. Ses habits étaient déchirés et laissaient voir des membres amaigris. Quelques mouches venaient bourdonner alentour et lécher le sang figé sur sa bouche entr'ouverte. Ses bras gonflés étaient bleuâtres et couverts de petites taches noires. Le soleil était sur son déclin, et un de ses derniers rayons, perçant à travers les barreaux de la morgue, vint frapper sur ses yeux à moitié fermés et leur donner un éclat singulier. Ce corps couvert de balafres, de marques de griffes gonflées, verdâtres, exposé ainsi sur la dalle humide, était hideux et faisait mal à voir. L'odeur nauséabonde qui s'exhalait de ce cadavre en lambeaux et qui faisait éloigner tous les passants oisifs, attira 2 élèves en médecine. « Tiens !» dit l'un d'eux après avoir considéré quelque temps. « Elle était à l'hôpital l'autre jour. » Il se tut et l'examina attentivement. C'était un véritable élève en médecine, avec un habit vert râpé, couvert de duvet, une casquette rouge et une pipe de faïence dans laquelle il fumait le fin Maryland. « Mais si nous l'achetions, que voudrais-tu en faire ?»« Gare !» cria la voix d'un cocher. C'était celui de Tilbury de l'autre jour qui conduisait mademoiselle à l'opéra. Nos disciples d'Esculape se rangèrent aussitôt. En se retournant, le fumeur laissa tomber sa pipe. « Sacré nom de Dieu !» dit-il en frappant du pied. « Voilà la troisième que je casse de la journée. » 1er avril 1836. Moralité. Maître Michel de Montaigne, Gascon d'Octe et Brunhomme, Bardereau, a dit « Ceci est un livre de bonne foi. Je donne mon avis, non comme bon, mais comme le mien. Mais moi, je dirais aussi que c'est de bonne foi que sont écrites ces pages, et même je les ai composées avec feu et enthousiasme. J'ai voulu tonner contre les préjugés, et je ferais peut-être crier contre un auteur aussi impudent que moi. Quant à ce que j'ai mis comme titre, un parfum à sentir, j'ai voulu dire par là que Marguerite était un parfum à sentir. J'aurais pu ajouter une fleur à voir, car pour Isabelle Landa, sa beauté était tout. Maintenant, de peur que la très sainte Église catholique, apostolique et romaine ne lance contre moi ses foudres à cause de mon titre cocasse, conte philosophique, immoral, moral, ad libitum, je me justifierai quand on m'aura fait la définition de ce qui est moral avec ce qui ne l'est pas. Ce que vous voudrez. Vous ne savez peut-être pas quel plaisir c'est composer. Écrire, oh, écrire, mais c'est s'emparer du monde, de ses préjugés, de ses vertus, et le résumer dans un livre. C'est sentir sa pensée naître, grandir, vivre, se dresser debout sur son piédestal et y rester toujours. Je viens donc d'achever ce livre étrange, bizarre, incompréhensible. Le premier chapitre, je l'ai fait en un jour. J'étais ensuite pendant un mois sans y travailler, et en une semaine, j'en ai fait 5 autres, et en 2 jours, je l'ai achevé. Je ne vous donnerai pas d'explication sur sa pensée philosophique. Elle en a une, triste, amère, sombre et sceptique. Cherchez-la. Je suis maintenant fatigué, harassé, je tombe de lassitude sur mon fauteuil, sans avoir la force de vous remercier si vous m'avez lu, ni celle de vous engager à ne pas le faire si vous ne connaissez pas le titre de mon originale production. 1er avril 1836, Gustave Flaubert.